Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on consacre chaque jour à un sujet d'actualité. Avec aujourd'hui les plaies encore vives d'un drame vieux de 30 ans, tout juste.
Flash spécial. Oui, pour vous annoncer cette nouvelle en provenance de Bastia au stade de Furiani où devait ou doit commencer, je ne sais pas comment dire, la rencontre de foot de ce soir, Bastia contre l'OM. Et dans ce stade Furiani, l'une des tribunes où avaient pris place 9000 personnes environ s'est brutalement effondrée.
Voilà, c'était le 5 mai 1992, une partie de la tribune s'effondre donc peu avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille. C'est sur ce drame et sur les traces qu'il a laissées que je voulais qu'on revienne avec toi, Nicolas Georgerot. Bonjour.
Bonjour.
Tu es l'envoyé spécial de RTL en Corse pour les commémorations liées aux 30 ans de cette catastrophe. Et je voulais, avant toute chose, que tu nous aides à comprendre le retentissement qu'a eu ce drame à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Ça a été vraiment un traumatisme majeur.
Oui, un traumatisme majeur parce que c'est la pire catastrophe du sport français. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque où Bastia est un club de Ligue 2 et qui affronte dans cette demi-finale le grand OM de Bernard Tapie. Et donc il y a toute cette ferveur, cet enthousiasme totalement incroyable. Mmh. Toute l'île attend ça. Il y a une ambiance de fête vraiment démesurée. Les écoles à Bastia s'arrête ce mardi-là à la mi-journée pour que les enfants puissent ensuite profiter des heures avant la rencontre. Tout le monde cherche des billets, des tickets pour aller à cette demi-finale. Et donc, il y aura cette tribune provisoire construite de 9000 places où 4200 personnes environ vont tomber. Il y avait quasiment 20 000 personnes dans ce stade ramenées à la population de l'époque. C'était quasiment un dixième de la population qui était présente ce soir-là à Furiani. Donc on comprend évidemment l'onde de choc. Et quand on parle avec les uns et les autres, est-ce que vous êtes rendu compte du danger? Mais non, jamais, jamais, nous disent-ils tous, même les journalistes qui étaient présents, parce qu'il y avait cette ambiance de fête incroyable.
Il y avait une vraie attente donc autour de ce match. Et ce qui ajoute encore à l'émotion après cette catastrophe, c'est que très vite, en fait, se pose la question des conditions d'accueil de tous ces supporters, tu l'as dit, des plus jeunes aux plus vieux. Cette journaliste corse, par exemple, dans l'édition spéciale du 6 mai au matin sur RTL à l'époque, souligne la fragilité de cette tribune qui s'est effondrée.
C'est une tribune qui ressemble un petit peu à un échafaudage. On l'a dit très sûre, elle a été contrôlée. On nous a dit que c'était quelque chose qui tiendrait vraiment le coup. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que, ma foi, ça repose... ce sont des tubes relativement fins qui reposent sur des morceaux de parpaing, sur des planchettes.
Et l'arbitre de la rencontre, un Joël Quignoux, que tu as récemment rencontré, Nicolas, lui, t'a raconté un souvenir assez édifiant. L'écoute.
On est arrivé le matin du match, donc on est allé faire le tour du terrain extérieurement. Et puis on a vu, j'ai dit, tiens, il y a un ou deux boulons qui sont tombés de la tribune. J'ai dit, tiens, c'est pas... On s'est interrogé en disant, tiens, c'est quand même bizarre, hein, des boulons qui tombent, etc. Bon, vous aviez le commissaire du match, les gens qui s'occupent de la sécurité, les autorités locales, voire même nationales aussi. Donc... on n'allait pas se substituer à elles et leur dire quelles étaient les décisions à prendre.
Voilà, il y avait a priori toutes les mesures de sécurité et de contrôle qui avaient été effectuées. Alors tu l'as dit, hein, tu as employé le mot tribune provisoire, Nicolas. En fait, cette tribune, elle a été montée pour ce match un peu à la hâte.
Bah complètement à la hâte. En fait, le club, le Sporting de Bastia a voulu doubler la billetterie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers jours du mois d'avril, a été démolie la tribune Claude Papy qui faisait 600-700 places. Et donc, une tribune de 9000 places qui est construite. Et en fait, il n'y a rien qui va du début à la fin. Il n'y a rien qui va de l'avidité, de l'appât du gain du club qui voulait donc gonfler les recettes jusqu'à l'entreprise entreprise niçoise qui a été choisie parce que d'autres entreprises avaient refusé en disant non, le laps de temps est trop court, on peut pas faire les choses correctement. Cette entreprise niçoise qui est confrontée à la grève des dockers à Marseille, donc en plus il manque des pièces pour que cette tribune soit édifiée correctement, en passant aussi par les commissions de sécurité qui vont passer plusieurs fois avec les pompiers, des gens de la préfecture, des délégués de la rencontre pour la Fédération française de football. Et personne ne tire la sonnette d'alarme. Personne dit à un moment donné non, c'est trop dangereux, parce que encore il y avait ce contexte où il fallait que ce match se joue à Bastia et se joue dans cette ferveur. Et le rapport d'enquête administrative qui sera publié quelques semaines plus tard est totalement accablant.
Accablant. Et d'ailleurs il y a eu un procès après ce drame, 3 ans après. Alors il y a eu des condamnations essentiellement à des peines de prison avec sursis, aussi bien pour le montage et le contrôle de l'infrastructure que dans les instances du foot d'ailleurs. Alors on le rappelle hein, quand même, le bilan définitif de cet effondrement, 18 morts, 2357 blessés. Ce bilan il est terrible, et parmi ces blessés, Hervé Berrou, qui devait couvrir le match pour RTL, voici ce qu'il racontait du drame seulement quelques heures après.
Nous on était au dernier rang en haut, et c'est vrai qu'à une ou deux reprises j'ai regardé en bas, je me suis dit que c'était assez impressionnant. Mais je sais pas, à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait plier, d'autant que j'ai des souvenirs qui se brouillent un peu, mes derniers souvenirs, le match n'était pas commencé. Et à ce moment-là, où on était assez tranquille dans la tribune, quoi, on se préparait à bosser tranquillement.
Ensuite,
je me suis réveillé dans le camion des pompiers.
Alors ces blessés, ils ont été soignés physiquement, mais pas psychologiquement. Et ça, dans ce que tu as raconté tout au long de la semaine sur RTL, Nicolas, ça m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que, en fait, l'accompagnement psychologique, à l'époque, il n'existe pas, c'est pas la norme.
Oui, il y a un avant et un après Furiani, très clairement, évidemment, dans l'homologation des rencontres, ça c'est évident, mais aussi dans la médecine de catastrophe, et dans la prise en charge psychologique. Furiani va rester comme le dernier événement, la dernière catastrophe, où il n'y aura pas de cellules psychologiques d'urgence. Elles seront mises en place pour la première fois lors des attentats à Paris en 1995. Et par exemple, ces derniers jours, j'étais à Canaries, ce village de 300 habitants, où 44 personnes de ce village étaient présentes à Furiani ce soir-là. Vous imaginez là aussi l'impact, l'onde de choc dans le village. Il n'y a pas eu de décès, mais des gens qui étaient grièvement blessés. Et ben je discutais avec quelqu'un qui était victime à l'époque, on en discutait, on échangeait, l'interview se passait très bien, et il me dit à un moment, est-ce que vous voulez que je contacte quelqu'un, un ami, je voudrais qu'il parle. Ben je lui dis volontiers s'il le souhaite. Il appelle devant moi cette personne, et cette personne ne veut pas. Et en raccrochant après, il me dit, je voudrais tellement qu'il parle, ça fait 30 ans, il ne l'a jamais dit, il n'a jamais extériorisé, il n'a jamais eu d'aide psychologique, et je voudrais tellement qu'il parle. Et donc pour certains, la douleur est indicible, et même un éducateur de foot que j'ai rencontré hier me disait, moi j'avais 14 ans à l'époque, on était 4 amis, mon meilleur ami à côté de moi est tombé, il est décédé, il dit j'avais 14 ans, les 3 années qui ont suivi, mes résultats scolaires ont dévissé, mais personne n'est venu me voir, j'étais odieux avec tout le monde, j'arrivais pas à parler, personne n'est venu me voir, personne n'est venu me soutenir. Et donc voilà, on peut imaginer les dégâts psychologiques incroyables.
Ouais, des dégâts psychologiques, et puis aussi évidemment des dégâts physiques. Par exemple, Karine Grimaldi, elle aujourd'hui, elle était dans le stade, aujourd'hui elle est en fauteuil roulant, elle a perdu sa sœur dans l'effondrement de cette tribune, en tout cas d'une partie de la tribune, et pour elle, le souvenir de ce 5 mai ne s'est évidemment jamais effacé.
C'est qu'en fin de compte, vous guérissez jamais, ça vous poursuit, c'est présent au quotidien. Après, je ne vais pas vous dire que je pense à Furiani tous les jours non plus, heureusement pour moi. Je dirais que j'ai eu beaucoup de haine et beaucoup de mépris au départ. C'était un peu aussi la révolte, un petit peu le fait d'être brisé, et puis la jeunesse qui fait que vous avez... Vous êtes encore plus nerveuse, impulsif, et avec le temps, on s'apaise, et heureusement, je pense.
Alors justement, toi qui es en Corse, Nicolas, est-ce que tu as senti, comme chez Karine, que les traces laissées par ce 5 mai, elles sont extrêmement profondes, au-delà des cas personnels de chacun ?
Oui, parce que tout à l'heure, je le rappelais, l'incroyable pourcentage finalement de la population corse qui était présente ce soir-là. Et donc, dans cette société en Corse où il y a beaucoup de pudeur, de discrétion, où apparaître faible n'est pas toujours bien vu, chacun en fait a essayé de trouver une voie, un chemin pour une reconstruction individuelle ou collective. Mais on voit que c'est extrêmement compliqué pour certains de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Et donc, en fait, beaucoup ont pris le chemin, ont essayé de raccrocher les wagons dans cette aide quelques années après. Mais il y a eu beaucoup de difficultés sur les premières années et il y a des douleurs qui sont renfermées et qui ne sont jamais sorties.
Ouais. Et sur le chemin de la reconstruction, il y a un combat aussi qui a été mené par les victimes, par leurs proches, c'est de faire en sorte que le 5 mai, plus aucun match de foot ne puisse se jouer. La décision d'ailleurs a été prise en octobre dernier. Plus de match de foot d'une compétition nationale ce jour-là pour le collectif des victimes du 5 mai. Ça a été un long combat, comme te l'a expliqué sa présidente Josefa Chilicelli.
Il a fallu qu'on sensibilise. On a rencontré tous les ministres des sports qui sont succédés. Ça a été très, très difficile pour nous. Enfin, le 14 octobre 2021 a été acté, la loi a été votée au Sénat, gelant les matchs de football le 5 mai.
Et ce 5 mai gelé, Nicolas, ça représente quoi pour ce collectif des victimes? C'est une forme de reconnaissance, de considération de la part des autorités pour ce qu'a été ce drame?
Oui, exactement. Alors, les instances du foot, que ce soit la Fédération française ou la Ligue de football professionnel, n'ont pas vraiment été à la hauteur de l'événement, que ce soit dès que ça s'est passé, le 5 mai 92, jusqu'à ensuite les trois décennies, peut-être. Et ça, c'est l'analyse du collectif, que finalement, les instances du foot n'ont pas voulu aider à geler ces matchs parce que c'était en quelque sorte implicitement de reconnaître une faute et être responsable. Et donc, en fait, le collectif a dû passer par le politique. C'est un député corse qui a déposé une proposition de loi et donc qui a abouti à cette loi votée à l'automne dernier. Mais ce qui est remarquable avec ce collectif qui s'est parfois heurté à un mur, c'est que c'est la jeune génération qui l'a porté et qui a réussi. Josefa Chilicelli, elle a 34 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, qui ont pris le relais de personnes plus anciennes et qui avaient eu beaucoup de mal en fait à faire reconnaître le droit des victimes et à classer cette catastrophe en catastrophe nationale, parce que beaucoup ici le disent, ce n'est pas une catastrophe de la Corse, ce n'est pas une catastrophe corse, c'est une catastrophe nationale.
Ouais, et dans ce collectif dont tu parles, il y a aussi, là encore, dans la jeune génération, un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Bastien Dumas Paoli. C'est le fils de Jean-Baptiste Dumas, journaliste pour RTL, qui est mort après ce drame de Furiani, autour duquel d'ailleurs il a construit, lui, un combat personnel pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus jamais.
Dès lors que je vois une tribune provisoire qui se monte et si j'ai ne serait-ce qu'un moindre doute sur la solidité d'un ouvrage provisoire, je contacte les mairies, je contacte les cabinets des maires, ça m'est arrivé encore récemment. Un concert d'un groupe très connu de rap marseillais, on m'envoie la photo de la tribune, c'est des amis à moi qui m'envoient la photo de la tribune en me disant « Regarde Bastien, la tribune qui se monte ». Je reçois la photo, je suis effrayé, elle est immense. Mais j'ai appelé le cabinet du maire et je me suis assuré que la commission de sécurité avait bien validé la solidité de l'ouvrage, parce que voilà, moi, c'est important que j'étais petit, j'avais 3 ans, ma sœur avait 3 mois et que personne ne vit ce qu'on a vécu.
En fait, on l'entend, Nicolas, pour chacun, blessé ou proche, le combat, en quelque sorte, il continue encore aujourd'hui, 30 ans après.
Alors, je ne dirais pas que c'est un combat, mais en tout cas, c'est une sensibilisation qui est accompagnée d'un apaisement. Apaisement, c'est un mot qui est revenu énormément ces derniers jours, parce que il y a le sentiment d'être arrivé quand même à un aboutissement avec le 5 mai et ces matchs gelés, mais d'avoir toujours cette veille. Et maintenant, ça se tourne vers la sensibilisation des jeunes générations, des jeunes, et de voir comment tout ça s'est transmis, et donc le devoir de mémoire, cette mémoire collective.
Oui, entretenir la mémoire histoire autour de ce 5 mai 1992. Merci à toi, Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL en Corse pour ce 30e anniversaire du drame de Furiani qui a profondément marqué l'île, donc, mais aussi le monde du sport. N'hésitez pas toujours à commenter, à noter nos épisodes de Focus sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus qui est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.